Camille Cottin revient au théâtre, je dis revient parce que c'est là qu'elle a commencé son métier, il y a 27 ans. Et dans ce parcours, combien de fois est-ce qu'elle s'est dit « j'arrête » ?
On le fait tout le temps comme un amant impossible à quitter. Il y a plein de moments où on a des moments de découragement, d'abattement.
Plus maintenant, j'imagine.
Non.
C'est un nom où le N est différent. Un peu long.
Non, c'est différent, mais ça reste des métiers magnifiques, mais par moments inquiétants.
Mais qu'est-ce qui est inquiétant ?
Non, mais ce que je veux.
Là, vous êtes en train de vous dire, elle m'emmène là-dedans, merde.
Ça s'entend. Oh non. Allô, pardon.
Oui, non, je suis sous un tunnel.
Sortir du tunnel avec Camille Cottin, c'est Totemic jusqu'à la prochaine heure. Jambes rouge sang qui sortent d'un rideau pourpre. C'est la première image de la pièce que Camille Cottin joue en ce moment. Et puis son corps apparaît tout entier, danse, se drape dans le rideau pour s'inventer d'autres costumes, donc d'autres vies. La pièce s'intitule Le Rendez-vous. Elle est adaptée du premier roman de Katharina Volkmer qui avait marqué la rentrée littéraire il y a 5 ans. Avec Le Rendez-vous, Camille Cottin interprète le monologue d'une jeune femme qui veut changer de sexe. L'année passée, elle a été à l'affiche de 5 films, dont Ni chaîne ni maître de Simon Moutaïrou ou Quelques jours pas plus de Julie Navarro. Le succès de la série 10%, dans laquelle elle était Andrea Martel, lui a offert une liberté de choix, comme celle d'être seule en scène jusqu'au printemps. Je l'ai retrouvée dans les coulisses du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. C'était le lendemain de la première et elle avait une petite voix.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Merci d'être venue là. On aurait pu se mettre dans le théâtre, mais il fait tellement froid. Je vais peut-être aller chercher mes grosses chaussettes. Vous m'aggravez une seconde.
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr.
Mais si, vous n'avez pas froid ?
Non, c'est bon.
Non, c'est bon. Ok, j'arrive.
J'ai juste eu le temps de voir qu'un paquet de fruits secs était éclaté sur la table basse et Camille Cottin est revenue avec 2 grosses boules de laine en main. Allez-y, mettez-vous à l'aise.
C'est glamour. Hein. On voit que la radio, on se lâche un peu. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est bien, il n'y a pas d'image.
Ouais. Hein.
Ah, vous êtes frigorifiée à ce moment-là ?
Non, ça va, mais je suis tombée malade juste avant la première. Je pense que j'ai somatisé. Mais voilà, enfin, attention quoi.
Mais ça vous est arrivé souvent parce que...
De somatiser. Non, en général, je fais partie plutôt de ce groupe assez large de gens qui tombent malades le premier jour des vacances, de tenir jusqu'au bout, puis voilà. Mais là, c'était la première fois. Et j'ai mon amie Camille Chamou qui a eu sa générale hier et qui s'est déclenchée une grosse conjonctivite le jour même. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a ? On n'avait pas ça quand on était plus jeune. On y allait comme ça, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, peut-être que le corps a... On voit quand même des signaux de petite détresse. Mais que voulez-vous ? On va pas...
Mais quand vous dites on n'avait pas ça quand on était plus jeune, il y avait une inconscience
On avait peur. Enfin, je me souviens, par exemple, pour prendre l'exemple de Camille Chamou, puisqu'elle est au Bouffe parisien en ce moment même...
Vous êtes quelqu'un qui joue un spectacle en ce moment
de mon homonyme qui joue dans un homonyme théâtral
et qui fait la promo des copines.
Et qui fait la promo des copines. Non, mais on a joué ensemble une pièce de Samantha Markovitch au théâtre de l'œuvre avec Camille Chamou et Samantha. Et on avait un trac pas possible derrière le rideau avant la première. Enfin, c'est à tel point qu'on se demande pourquoi on a fait ça, pourquoi on s'est engagé, etc. là-dedans. Donc on se fait du mal. Donc la peur, elle a toujours été là. Mais c'est vrai que le fait là de tomber malade le jour même ou la veille, ça c'est une petite nouveauté qui vient avec l'âge.
Cela dit, de renouer avec le théâtre dans une forme particulière dont on va parler, à chaque fois le plongeon est plus haut. C'est-à-dire vous n'avez pas la même notoriété non plus. Vous avez joué dans un film de Tom McCarthy, pour Ridley Scott.
Oui. Et puis, je ne m'étais pas du tout projetée toute seule sur scène, mais c'est parce que j'ai aimé ce texte que je l'ai posé. Je me suis dit, ah oui, très intéressant, mais bon, je ne vais pas Je cherchais une forme pour le cinéma, un roman adapté au cinéma. Donc, et puis il est resté.
Ce texte, il s'intitule donc c'est Jewish Cook.
Jewish Cook.
Jewish.
Non, c'est pas grave, mais Cook, ça fait cuisinier. Mais on peut, c'est aussi un postulat de départ qui est possible. Mais c'est pas le nôtre.
Oui, c'est sûr, parce que il s'agit d'un pénis juif plutôt que d'un cuisinier juif. Donc Jewish Cook de Katharina Volkmer.
Le moment me semble opportun pour interrompre cette interview et apporter quelques précisions. Jewish Cook est le titre sous lequel est paru le premier roman de Katharina Volkmer en France. C'est le monologue d'une jeune femme allemande qui consulte un gynécologue, le docteur Seligman, pour se faire greffer un pénis circoncis. Donc le texte est une réflexion sur le poids de la culpabilité allemande, sur le genre et sur la liberté d'aimer. Camille Cotin l'a adapté pour le théâtre avec le metteur en scène Jonathan Capdevielle. Et pour que vous ayez une idée du ton, je vous lis un extrait du début de la pièce. Il y a des limites à ce qu'on peut imposer aux gens, et n'importe qui s'enfuirait en courant après une deuxième bouchée de ce que nous appelons nourriture. Ça a toujours été notre point faible. Nous n'avons jamais rien créé de réjouissant sans la perspective d'un dessein supérieur. D'ailleurs, n'est-ce pas un hasard si le mot plaisir n'existe pas en allemand? Nos gorges ne sont jamais suffisamment humides pour tailler une pipe avec toute la dévotion requise, parce qu'on nous a fait avaler trop de pain sec pendant l'enfance. Vous voyez, ce pain allemand atroce qu'on mange toujours et dont nous sommes si fiers depuis. À mon avis, c'est un châtiment de Dieu pour tous les crimes que nous avons commis. Si bien que ce pays ne produira jamais rien d'aussi sensuel qu'une baguette ou d'aussi délicieusement spongieux que les muffins aux myrtilles qu'on trouve ici. On reprend. Camille Cotin, au Théâtre des Bouffes du Nord et au micro de Totémique.
Qu'est-ce qui vous a à ce point happé ou parlé dans ce roman ?
J'ai aimé son humour. J'ai l'impression de faire une confession parce que je sais que c'est un humour qui est particulier et qui peut laisser perplexe. Mais j'aime l'humour comme arme de vérité. Et c'est un humour et par moments c'est cru, mais c'est cru en résistance au tabou, justement, comme un bouclier anti-tabou. Donc on est comme si elle était obligée, parce que le tabou est tellement gros, le silence est tellement lourd, que si elle y va pas,
donc ça pète, quoi.
Ça pourra pas voler en éclats, elle pourra pas s'en libérer. Donc elle y va, mais c'est absolument pas une carence de poésie, parce que quand s'installe la poésie dans sa langue, elle m'émeut énormément. Donc ça, ce mélange-là, déjà, c'est quelque chose qui me fait vibrer en tant que lectrice. Finalement, les choses se sont faites comme ça, dans cet ordre-là, et c'est un peu le texte qui m'a choisi. Puis, en tout cas, je me disais, ok, alors attends, si on le fait au théâtre, parce que ça peut pas être au cinéma, je suis sûre qu'il pourrait, bien sûr, se faire comme un open mic, droite, devant, bouge pas.
Comme un stand-up, quoi.
Oui, c'est ça. Ou comme Blanche Gardin, qui est hiératique. Ou comme une Isabelle Huppert, qui a fait des choses aussi où elle bougeait pas, clignait pas de l'œil. Et pourtant, c'était hyper impactant. Je pense que le texte porte en lui cette force.
Alors que vous, dans le rendez-vous,
oui.
Vous êtes énormément en mouvement. Il y avait aussi, dans le fait de retourner sur cette envie-là.
Ah, c'est la première chose que j'ai dit à Jonathan.
Jonathan Capdevielle, le metteur en scène du rendez-vous.
Absolument. Je veux bouger et possiblement presque danser tout le temps, même si c'est imperceptible. Donc il a invité Marcela Santander, qui est une chorégraphe chilienne magnifique, et qui a participé, en fait, qui a été là pendant toutes les répétitions. Et donc, on a travaillé sur ce mouvement perpétuel. Ouais.
Pourquoi vous aviez envie de ça ? Parce qu'au cinéma, on ne bouge pas assez.
On est un peu découpé parfois. On est un peu derrière une planche de poli. Ben, on est dans un œil. C'est vrai, quand les premiers pas au cinéma, je me rendais compte qu'il fallait vraiment détendre tous les muscles du visage. Et surtout, moins on bouge son visage et plus les choses nous parviennent, plus les émotions sont fortes. Mais en tout cas, donner une parole au corps, oui, je trouve que la scène se prête bien à ça. Et le texte, qui parle tellement du corps comme objet politique, objet de tous les fantasmes, objet de violence, en comme un enfermement ou au contraire une libération dans sa quête de sexualité, de liberté, d'identité, ça me paraissait justement un support magnifique pour y aller à corps perdu.
Et là, peut-être que vous reconnaissez. Le tube choisi par Camille Cotin ce matin, c'est « Pourvu qu'elle soit douce » de Mylène Farmer.
Dans le spectacle, il y a un moment où Katharina dit, quand j'étais plus jeune avec ma meilleure amie, je regardais beaucoup de clips vidéo, et elle dit, bon bah moi je m'en foutais de la musique, et ces corps stéréotypés qui s'agitaient, bon ça me faisait pas grand chose, mais quand même il y avait quelque chose qui me questionnait, et je voyais la tête de ma meilleure amie à côté de moi, et ça l'excitait, elle rougissait, je voyais que ces images l'excitaient, mais moi elle me faisait rien. Et j'ai mis une éternité à comprendre mes propres désirs. Et en fait, du coup, j'ai un peu pensé à ça, et je me disais, ah oui, moi quand j'avais vu... clip de Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Enfin, c'était vraiment, j'avais, je sais pas, 12 ans, 13 ans. Et ça m'était complètement en émoi, quoi. C'était une espèce de truc érotique, mais qui tout d'un coup passait à une heure de grande écoute et familiale. Et j'avais l'impression d'être dans la transgression totale, de voir ce clip qui, en plus, était comme un film qui durait hyper longtemps. Et avant, je crois que Sans Contrefaçon est sorti avant. Et j'avais déjà, quand même... J'étais assez interpellée par cette fille avec cette marionnette en garçon, cette marionnette qu'elle fait bouger et qui me rappelle un peu quand même dans le spectacle la façon dont moi j'utilise mon corps comme une marionnette. Enfin, tout d'un coup, je me suis dit, ça m'a rappelé que si sur Tristana, Tristelle est prête à tout pour rien pour tout, je faisais des heures de ruban dans la maison de campagne avec ma copine.
Mais vous connaissiez par cœur le répertoire de Mylène Farmer,
mais
en fait.
Mais en fait, oui. Et il y a plein de choses en fait où elle, et parce que effectivement ça a résonné avec ce moment où c'était aux prémices de l'adolescence et c'est venu cogner contre quelque chose de très fort de l'ordre de la construction du désir, de l'identité, de la sexualité, du genre, parce qu'en fait elle portait quand même tout ça en elle.
On disait pas encore queer à l'époque,
non.
Mais c'était ça.
Ouais, elle était déjà très très précurseuse de ça. Et c'est des images en fait qui sont restées gravées dans ma mémoire.
Vous avez toujours été à l'aise sur scène avec votre corps?
Non, pas du tout. Quand j'ai commencé, j'étais hyper bloquée des épaules. Tout le monde me disait, mais il faut que tu détendes tes épaules, t'es toute raide. Et la voix ne sortait pas du tout. Non, ça a été un choc, parce que j'ai toujours rêvé d'être actrice. Et quand j'ai commencé, que je suis montée sur une scène de théâtre pour mon premier cours de théâtre, où je me disais, bon, bah ça y est, je vais à la rencontre de mon destin, c'est maintenant. Et c'était nul, zéro, cata.
Rebelle, vous l'avez été?
Un peu, gentiment. Pas autant que j'aurais voulu. J'ai fait des tentatives.
Vous avez envie?
Non, mais... Bah oui, on aime bien. Je suis un peu fascinée par les rebelles. Mais je ne sais pas si j'ai été tant confrontée à des situations qui appelaient une forme de rébellion, de rébellounette, quoi. Mais rien qui change le cours des choses. Chou, calamassou.
Frondeuse, à coup sûr, voici Bonnie Banane.
Qui m'a poussé à te dire bonjour ce jour-là, sache. Qui m'a sommé de foncer tout droit dans le dos, sache. Qui me l'a soufflé, m'a soufflé l'idée.
Enchantez-moi,
c'est l'amour. Pourquoi je t'ai monté vraiment?
Sacha.
Moi.
Sacha. Sacha.
Sacha.
Qui a fait Sacha. Le premier pas, qui sera le dernier
Sacha.
À sonner le glas. Oh, qui a fait.
I don't wanna waste, I don't wanna waste
another day. Qui sera le dernier.
I don't wanna waste, I don't wanna waste
another day.
Échappée avec Camille Cottin, c'est Totémique aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a le fantasme quand, parce que je crois que vous avez joué une bonne quinzaine d'années au théâtre, oui, avant de faire ce programme sur Canal, Connasse, et puis 10%, etc. Quand on avance comme ça, est-ce qu'il y a le fantasme justement de l'innocence des débuts?
Oui, en tout cas, je me souviens que quand j'ai commencé à faire Connasse, on me disait « Ah mais alors, donc ça faisait donc 10 ans que... » Enfin, souvent on me disait « Alors après des années de galère... » Je disais « Mais c'était pas des années de galère, c'était certes financièrement, c'était pas panacé, mais c'était des années très heureuses parce qu'effectivement, il y a une forme de liberté, de on est dans la création, puis on est dans la découverte. »
Et dans la débrouille aussi.
Dans la débrouille,
donc
dans
on invente.
On invente, on se débrouille avec ce qu'on a. Quand ça marche, du coup, c'est une victoire incroyable parce qu'il n'y avait rien pour. Et donc, oui, moi j'aime, c'est vrai, l'innocence, c'est très joliment dit. Il y a quelque chose. On est très près de l'enfant qu'on était, qui rêvait de faire ça et qui tout d'un coup se dit ah, mais c'est possible, ça existe. Et puis, je rencontre des compagnons sur sa route qui sont à peu près dans la même vibration. Et donc c'est plutôt quelque chose de joyeux et un peu dégagé d'une certaine forme de responsabilité qui arrive, encore une fois, avec l'âge.
Là on est au Bouffe du Nord. Où est-ce que vous avez commencé à jouer, vous? Sur quelle scène?
Alors, mon tout premier théâtre, c'était le Théâtre du Nord-Ouest, qui appartenait, et je ne sais pas s'il existe toujours, journaliste d'ailleurs, et metteur en scène Jean-Luc Génère, qui avait créé ce lieu où tout le monde pouvait venir jouer. Il n'y avait pas de décor. Et il était, c'était son parti pris de dire, voilà, si vous voulez monter une pièce, vous pouvez la monter, puis on fait un emploi du temps, puis voilà, vous la jouez, puis vous prenez ce créneau-là. Et donc, on était nombreux à venir créer nos pièces, jouer. Alors moi, j'avais joué une pièce pour enfants là-bas, le Noël du Loup. Après, j'avais joué un Fédo. Et ensuite, je suis allée... Je pense qu'après, je suis allée au Café d'Edgar, après au Théâtre des Trois Bornes, mais ça, c'est des toutes petites salles. Il faut savoir que quand on sort de l'école de théâtre, moi, j'ai fait des cours privés qui sont l'école Périmonie, j'ai pas fait les écoles nationales. Quand on sort, on est un peu seul au monde, donc on sait pas du tout comment, qui, quoi, qu'est-ce que...
Par quel bout prendre le problème.
Par quel bout prendre le problème. On était plein de rêves, et puis bon, bah ça y est, on a fait 3 ans, et puis bon, bah non... Entre le moment où on sort de l'école et puis il se passe un an où il se passe rien, et tout d'un coup un copain qui vous appelle pour vous dire « Mais tu veux pas remplacer machine dans la toute petite salle là-bas du théâtre sans chauffage, pas payé, mais pour... non, on est fou de joie, on est là « Mais si, mais merci !» Et donc ça... voilà, c'est une façon de vivre, de commencer son chemin. Et j'étais pleine de gratitude pour ces moments-là.
Donc il n'était pas question à un moment de se dire « j'arrête ».
Il est tout le temps, on le fait tout le temps comme un amant impossible à quitter. Il y a plein de moments où on a des moments de découragement, d'abattement.
Plus maintenant, j'imagine.
Non.
Ah, c'est un non où le non, N est différent. Un peu long.
Non, c'est différent, mais ça reste des métiers magnifiques, mais par moments inquiétants.
Mais qu'est-ce qui est inquiétant ?
Non, mais ce que je veux...
Là, vous êtes en train de vous dire « Oh, non, elle m'emmène là-dedans, merde !»
Ça s'entend, hein. Oh, non. Allô, pardon.
Oui, non, je suis sous un tunnel.
Non, mais parce que c'est des métiers tellement privilégiés, tellement magnifiques, et que je... Voilà, et puis surtout là, en plus, on en parle dans un endroit qui est...
Mais c'est un métier qui a énormément de codes aussi. C'est une industrie qui a plein de codes.
C'est une industrie qui a plein de codes, c'est vrai.
Blanc. C'est une industrie qui a plein de codes, et vous, vous tirez quand même votre épingle du jeu.
Je sais pas, j'observe les gens qui m'inspirent, les gens dont j'aime le travail. Je regarde leur parcours, j'essaie de comprendre... J'ai beaucoup d'admiration, en tout cas, pour les artistes, les acteurs, actrices, interprètes, réalisateurs, réalisatrices, qui essayent d'être au plus près de ce qu'ils sont, tant dans leur désir artistique que dans leur existence. Oui, dans l'exigence qu'ils ont d'une sincérité.
D'être fidèle à soi, quoi.
Ouais, fidèle à soi et fidèle à ses convictions aussi. Donc ça, ce serait un peu mes...
Vous pensez à qui ?
Inspiration. Ben, si on parle des gens avec qui j'ai pu travailler, que ce soit... Par exemple, on parle de Julie Navarro de Quelques jours pas plus, dont c'était le premier film... Ça m'a beaucoup touchée. Pourquoi elle avait envie de parler de ce sujet ? Comment
à savoir des migrants,
à savoir de l'accueil des réfugiés, des associations qui s'occupent effectivement de dans une démarche bénévole d'accueillir ces réfugiés. Comment elle avait vécu ça à travers sa mère. Comment elle continuait à le vivre au quotidien. L'urgence qu'il y avait aussi pour elle à en parler. Et donc je suis hyper touchée, moi, par Adèle Haenel, qui après effectivement son engagement a aussi pris une dimension telle qu'elle a rompu, je crois, avec l'industrie du cinéma. Son intégrité, cette femme est tellement entière. Et après, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas faire autrement, tant elle est habitée par une nécessité, un besoin de justice qui l'anime. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, la Adèle Haenel que j'ai pu découvrir dans la Polonie, ou dans Les combattants, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette femme, quoi ? Elle est incroyable, et l'actrice aussi. Et le trajet qu'elle fait, je suis pas surprise, en fait.
De maintenir le cap, finalement, de faire les choses parce que c'est une nécessité intérieure.
Oui.
Mais vous, il y a l'idée dans votre parcours, même si les choses se sont copieusement accélérées ensuite, il y a quand même l'idée de construire un truc brique à brique.
Mm-hmm. Oui, ça a été beaucoup plus de l'endurance qu'un sprint, ça c'est sûr.
Êtes heureuse de ça ? Ou vous le regrettez un peu ?
Non, pas du tout. Je suis plutôt très, très heureuse. Il n'y avait rien qui prédestinait à ce que ça se passe comme ça. Donc c'est déjà magnifique. Et puis, en fait, je ne vois pas ce que ça aurait... Bien sûr, je me dis, mais quand j'ai habité à Londres, qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas aller prendre des cours de théâtre en anglais parce que j'avais trop peur. Parce que je me disais, mais je ne parle pas anglais, alors je vais avoir l'air quiche, donc je ne vais pas y aller. Alors que j'étais sûre que j'avais envie d'être actrice et que je pense que ça aurait pu être... Voilà, donc ça peut être par exemple des regrets.
Vous dites, je regrette de ne pas avoir pris des cours de théâtre à Londres quand j'y vivais, parce que vous avez vécu à Londres quand vous étiez ado, c'est ça ? Ou vous avez suivi votre famille ?
Oui, c'est ça, ouais, adolescente, ouais.
Donc vous êtes fluent in English.
It's okay.
Nous allons donc écouter un extrait de film en VO.
Ah oui.
Parce que vous avez choisi une voix, à savoir celle de Marilyn Monroe. Dans un film en particulier de Billy Wilder qui s'intitule Certains l'aiment chaud. Et on va écouter un extrait où Jack Lemmon et Tony Curtis, qui sont déguisés en femmes, rejoignent Marilyn Monroe dans un wagon et ils font connaissance.
I'm Sugar Cane.
Hi. Sugar Cane?
Yeah, I changed. It used to be Sugar Kowalczyk.
You Polish?
Yes. I come from this musical family. My mother is a piano teacher and my father was a conductor.
Where did he conduct?
On the Baltimore in Ohio.
Oh.
I play the ukulele and I sing, too.
Sings, too?
Well, I don't have much of a voice, but then this isn't much of a band, either. I'm only with him because I'm running away.
Running away from what?
Oh, don't get me started on that. Hey, you want some? It's bourbon.
I'll take a rain check.
Oh, j'adore ce film. Là, j'ai toutes les images où je la vois dans son petit wagon.
Et avec la flasque de whisky dans la jartelle.
Avec la flasque de whisky qui va finir par tomber quand elle va sortir son petit ukulélé. Quand elle dit « All the girls drink, but I'm the only one who gets caught ». C'est tellement... La voix de Marilyn, justement, elle le dit là. Elle dit « Ah oui, j'ai été prise dans cet orchestre, mais j'ai pas beaucoup de voix ». Mais bon, c'est pas grave de toute façon, parce que moi, c'est un prétexte. C'est parce que je veux m'enfuir. Et en fait, elle dit qu'elle a pas beaucoup de voix. C'est ses petits timbres dans le souffle qui, pourtant, sont hyper puissants, inoubliables. Cette voix, c'est la voix du cinéma tout entier. Enfin, c'est une des voix, pour moi, parce qu'on a beaucoup parlé de son corps, mais finalement, sa voix, elle est... presque plus iconique encore. Et comment elle en joue, finalement ? Comment elle joue de cette douceur ?
C'est aussi une mise en scène de la féminité, vachement. Mais féminité XXL.
XXL, c'est-à-dire qu'en plus, là, une époque où on est quand même bien, bien dans la femme sex-symbole, pin-up, les gros seins, la taille de guêpe, compressée dans un corset. Mais je trouve que Billy Wilder, lui, même si elle est comme ça, elle est incarnée comme ça, il lui met de la distance et de la poésie, bah, notamment avec cette scène de fin, qui pour moi est le plus beau dialogue de fin de film.
Où deux hommes se retrouvent, dont l'un est travesti et l'un veut épouser l'autre. Il lui dit, il essaye de le convaincre que ça ne va pas être possible parce que c'est un homme, et l'autre lui répond, bah, personne n'est parfait.
Oui, c'est ça. Il commence à dire, je suis pas riche, mais c'est pas grave, moi j'ai de l'argent. Oui, mais je puisqu'il dit, mais je ne joue pas de trombone. Bon, je m'en fous, j'aime pas cet instrument, mais je suis un homme. Eh ben, personne n'est parfait.
Ah oui, vous le connaissez par cœur.
Mais j'adore. Je l'ai montré à mes enfants, ils ont adoré, donc j'étais trop contente. Donc c'est bien, ça va pouvoir perdurer.
That's good. I'm gonna level with you. We can't get married at all.
Why not?
Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
Doesn't matter.
I smoke. I smoke all the time.
I don't care.
Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
Et maintenant... Voici Billie Eilish.
When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today. Not tomorrow. Kinda strange. Feeling sorrow. I got change. You could borrow. When I come back around, well, I know what to say. Not today. Before you can cope with anymore, you told.
Les mots se lestent d'un autre sens depuis le 20 janvier, jour d'investiture de Donald Trump. Ce jour-là, le président américain a déclaré « À partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin ». Ce jour-là, Elon Musk, numéro 2 du gouvernement, a fait un geste qui, à minima, provoque le doute quant à son intention de reproduire le salut nazi. Et pendant ce temps, Camille Cotin interprète les mots de Katharina Volkmer dans Le Rendez-vous. Un monologue qui parle de la Shoah et des genres, puisqu'une femme veut y changer de sexe. Ce texte se termine par les mots suivants. Tenons-nous la main, soyons des guerriers.
Parce que je pense qu'on est tous un peu pétrifiés, parce qu'ils ne cessent de grandir. Enfin, déjà, ce qui est, par le constat politique, géopolitique, et qui est un tout petit endroit où si on peut continuer, enfin faire un acte de résistance, mais c'est très modestement, hein, vraiment parce qu'il y a des gens qui vraiment s'engagent de manière quotidienne et absolue, mais en attendant, oui, je suis touchée par des projets qui peuvent avoir une quelconque résonance avec les temps qu'on traverse, avec ce qu'on traverse, et puis ça me touche aussi en fait quand, enfin, je me souviens même un moment. Enfin bref, ou Conas, on pouvait se dire que voilà, c'était un...
Conas, c'est un programme que vous avez fait, qui vous a fait connaître sur Canal+.
Oui, mais je me souviens, j'avais croisé une fille dans la rue qui m'avait dit que j'étais aux attentats du Bataclan, et je suis restée hospitalisée pendant 6 mois, et merci, j'ai regardé Conas, et ça m'a sorti de ma torpeur, enfin ça m'a aidée, et ça m'a vachement touchée, parce que en fait, j'avais pas l'impression que Conas pouvait être un objet politique ou quelque chose, en tout cas, qui pouvait. J'avais l'impression que c'était vraiment du divertissement pur et voilà, mais sans mépris, hein, du tout. Et je l'ai fait avec tout mon cœur. Mais je m'éloigne, mais après, voilà, que les choses servent d'une façon ou d'une autre, qu'elles trouvent une fonction, qu'elles trouvent une place et qu'on ait l'impression que ça peut un tout petit peu créer du lien. Oui, il y a un salut pour moi là-dedans. Parce qu'on prend la parole, en fait, finalement. On prend la parole, et puis on donne une représentation du monde aussi. Donc oui, il y a une certaine responsabilité.
On termine avec votre carte blanche.
Ah oui, Anne Dufour-Mantel.
Qui était une philosophe.
Qui était une philosophe, psychanalyste. Et avant de vous lire juste l'extrait, je vous dis 3 phrases sur le dos du livre. À une époque où la sécurité nous est donnée comme valeur principale, où l'exacerbation des peurs de toutes sortes et la servitude volontaire sont encouragées, ce livre, l'éloge du risque donc, fait l'éloge de la prise de risque. Cet ouvrage pose comme question centrale, qu'est-ce que risquer sa vie, à savoir prendre le risque de vivre. Un petit extrait.
Vous lisez de la philosophie, donc, vous?
Un petit peu, mais pas autant que j'aimerais. Mais lui, je l'ai adoré, ce livre. Alors, rire est un risque. Rêver aussi. On peut rire et rêver de tout. Et c'est aussi ce qui en fait le scandale. L'humour n'est pas un chemin de pensée autorisé, ou s'il est confisqué, c'est au nom de toutes les bonnes raisons qu'on peut trouver pour mettre en place des censures toujours plus subtiles. Le rire, le rêve, font effraction. Ils ne disent pas d'où ils viennent. On peut seulement faire l'hypothèse, après coup. Le rire nous mène tout au bord de la faille. Il se tient dans l'ambiguïté, là où ça chute. Comme la blague ou le gag. Face à l'insupportable, il y a encore la possibilité du rire. Le rire, comme le rêve, sont des traits d'esprit que le corps rend tangibles. L'un en diffusant de la joie concrète, l'autre dans l'éclipse du sommeil. Opérateur du réel, il ne marchant ni le désir, ni la liberté. Tous deux sont un mode de résistance inédit, une sortie de route, une intelligence de l'instant, une résolution très fugace à la question « qu'est-ce qui soutient le désir face à la mort ?» Ce qui me parle, c'est le rire et le rêve comme résistance comme mode de résistance au réel. C'est le corps qui rit, c'est le corps qui rêve. C'est le corps qui parle, et c'est le corps qui résiste, c'est l'intelligence du corps. Après, le chapitre est plus long, hein, plus dense, mais...
Pardon. Parce que là...
Il est 18h ?
Oui, il est 18h.
Non, mince, j'ai échauffement.
Ah. J'avais une photo à faire.
Ah oui?
Oui, j'en ai pour okay. 2 minutes. C'est une photo amateur, il n'y a pas de... Si vous en êtes d'accord.
Bien sûr, je suis d'accord.
Ok. Alors.
Je suis dans le cadre? Ah oui. Mylène, tu toques, hein?
Apparemment, c'était jouer le timing, donc...
Oui, oui, c'est pour l'échauffement.
Oui,
vous êtes dans le cadre, mais bord cadre.
C'est bien, tant mieux, j'aime bien.
Vous vous reconnaissez?
Ah ouais, je rigole, c'est chouette, tant mieux. Merci Rebecca.
Eh ben merci à vous.
Merci d'être venue.
Camille Cottin est seule en scène et en tournée dans toute la France avec Le Rendez-vous, mis en scène par Jonathan Capdevielle. Les 28 et 29 janvier, elle sera à Grenoble, les 31 janvier et 1er février à la scène nationale d'Annecy. Et il y a des dates jusqu'au 8 avril. Koyen Guyane réalise Totémique et c'était avec Jérôme Ragano ce matin. Merci à Perrine Malinge qui programme nos invités, à Ilinka Negulesco qui prépare l'émission et à JB Audibert qui choisit nos disques. La semaine prochaine, ça se passe au cinéma, dans un village au bord de la Loire avec Artus. Et la suite sur Inter, c'est Grand Bien Bouffasse avec Ali Rebéi. Salut Ali, quel est le sujet au sommaire du jour?
Salut Rebecca, et bien ce matin nous célébrons le plaisir de lire des bandes dessinées à quelques jours du festival d'Angoulême. Et vous, évidemment, on vous retrouve dans Le Masque et la Plume, dimanche à 10h et à 20h.